Hello, hello! Vous écoutez le top 5 des activités à faire en famille dans une destination, un des deux formats courts de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 13 et 17 ans, toujours accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. Après mes épisodes en solo sur Londres et Barcelone, je vous passe le micro pour raconter vos endroits, activités, parcs, hébergements, bref, les 5 trucs que vous avez préférés dans une ville, une région. Parce que bon, c'est quand même vachement plus sympa de les faire à deux, non? Dans ce format court, on va donc à l'essentiel et on vous donne 2-3 tips pour y aller, se déplacer et où manger, évidemment. Vous le savez, impossible de parler voyage sans gastronomie, donc les bonnes adresses, bah je les prends aussi. Après l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Bah oui, ce serait dommage de rater toutes ces bonnes idées pour vos prochaines vacances. Et si en plus vous avez envie de me laisser un petit commentaire, faites-vous plaisir. Allez, c'est parti pour le top 5 de Laura à Majorque. Hello Laura!
Salut Stéphanie!
Comment ça va?
Eh ben ça va très bien, écoute, on est bien.
Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui?
Alors moi je me trouve à Grenoble, dans le centre-ville plus particulièrement, et je peux un petit peu observer les montagnes de chez moi. Mais aujourd'hui c'est brumeux donc on les voit pas trop, elles sont cachées,
ouais.
Ce qui m'amuse beaucoup.
Mais au moins tu sais qu'elles sont là.
Oui, elles sont là.
Ah c'est cool,
ouais,
moi,
c'est
ça
chouette.
Donne envie. Bon, avant de partir, pas du tout à la montagne en l'occurrence.
Non, pas du tout. Ah, un petit peu d'une certaine manière, on verra.
C'est pas les mêmes.
C'est pas les mêmes.
Est-ce que tu peux nous présenter la voyageuse que tu es?
Alors, la voyageuse que je suis. Alors déjà, je voyage principalement en famille avec mon chéri, donc Sébastien, et mon fils qui vient juste d'avoir 9 ans. Donc depuis 9 ans, on voyage principalement avec lui. Plutôt en mode indépendant, on n'aime pas forcément tout réserver, tout planifier à l'avance, on aime bien se laisser un petit peu surprendre. Et puis comme ça fait quand même assez longtemps que je voyage, je ne vais pas dire combien de temps parce que ça va me vieillir tout de suite,
mais non.
Mais on va dire plus de 20 ans, on est beaucoup moins stressé par plein de choses, donc... Donc on peut faire des choses un petit peu à l'arrache. Et puis j'ai voyagé... beaucoup à l'étranger, sur des longues périodes. Notamment, j'ai fait un an en Amérique du Sud, enfin Amérique centrale, Amérique du Sud. Je suis partie aussi 6 mois en Asie, dans différents pays. J'aime bien ces voyages longs, mais sinon, voilà, on essaie de prendre quand même notre temps. On a cette possibilité-là, en tant qu'indépendant, de pouvoir partir peut-être un petit peu plus longtemps que les 5 semaines de congé annuel. Donc, j'en profite.
Mais t'as bien raison.
Et puis, je suis aussi blogueuse voyage, donc ça joue un petit peu sur les voyages dans le sens où pour nos contenus aussi, on prend le temps de faire des photos, des vidéos, de vivre des expériences aussi chouettes à raconter. Et notamment, on aime bien montrer qu'on peut voyager de plein de manières différentes et puis de manière un peu plus durable. Voilà, faire attention à ça.
Nous allons partir dans la destination pour laquelle tu vas nous faire ton top 5, donc direction Majorque, on quitte la France. Quel âge avait Elio ?
C'était il n'y a pas longtemps du tout, c'était cet été, donc voilà, il avait 8 ans et 3 quarts.
C'est
si
important à cet âge-là.
Voilà, c'est important. Donc assez grand quand même. Et on a choisi cette destination un petit peu, entre guillemets, à cause de lui. Parce qu'il adore la mer et on sait que des vacances, s'il n'y a pas la mer pour lui, ça va vraiment pas être fun.
C'est pas des vacances.
Voilà.
Eh bien écoute, allons-y dès maintenant. Quel est ton top 1 pour cette destination?
Alors, pour cette destination donc, de Majorque, mon top 1, ça va être déjà la capitale tout simplement de l'île, qui s'appelle Palma de Majorque. Alors c'est vrai qu'en général, nous, on voyage pas forcément beaucoup dans les villes. On est plutôt nature. J'ai oublié de le dire, je suis une voyageuse plutôt nature. Mais j'aime bien me faire des petits city trips. Alors là, pour le coup, Palma de Majorque, je m'étais fait une journée toute seule, en solo, pour aller la visiter. Et donc, j'ai pas mal carburé pour aller voir les différents lieux culturels. Et il y en a qui sont très, très intéressants. Je pense notamment à la cathédrale. Qui est très très belle, dans laquelle on peut bien sûr rentrer, voir la nef, etc. Il y a une chapelle notamment qui est très insolite parce qu'elle a été faite par un artiste céramiste qui a peint en fait, enfin pas qui a peint, qui a fait des poteries, mais sur l'ensemble de la chapelle, donc sur des hauteurs assez impressionnantes. Ça a un effet un petit peu glauquissime, on s'attend pas du tout à avoir ce genre de céramique, de décor à la fois moderne et... Enfin, c'est pas du tout dans les décors religieux qu'on a l'habitude de voir. Et donc, ça représente notamment tout ce qui est produit par la mer d'un côté, produit par la terre de l'autre, etc. Bien sûr, il y a des références religieuses. Mais c'est vrai que quand on débarque là et qu'on tombe nez à nez avec cette œuvre, c'est marrant de voir la réaction des gens parce qu'ils sont là en train de dire je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Mais pour la petite histoire, très rapidement, en fait, pourquoi cet artiste-là a été autorisé à faire une œuvre? En fait, des années plus tôt, il y a Juan Miró, qui est donc un artiste mallorquin que je pense tout le monde connaît, il a voulu faire une œuvre dans cette même église, enfin dans cette même cathédrale, et le patron, je sais plus comment on dit, mais le patron de la cathédrale, en gros, il a dit non, non, c'est trop avant-gardiste, etc. Et en fait, bah, quand Juan Miró est devenu célèbre, il s'en est mordu les doigts.
Bah, tu m'étonnes.
Des années plus tard, quand cet autre artiste est arrivé, donc de mémoire, il s'appelle Barceló, je pense, voilà. Bah, du coup, il lui a dit oui tout de suite. Il lui a dit, et puis prenez une énorme chapelle, etc. Bon, il a bien fait parce que c'est aussi un artiste qui est reconnu. Mais donc, c'est assez drôle. Et une fois qu'on a vu ces œuvres-là, on peut monter sur le toit de la cathédrale. Donc ça, c'est assez chouette aussi parce qu'on voit vraiment toute l'architecture, les arches. On peut passer devant l'immense rosace aussi, en pierre et en vitraux. C'est super beau. Et puis on voit toute la ville aussi devant nous. Donc c'est assez chouette. Et puis après, il y a plein d'autres lieux autour qui sont intéressants. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette ville, c'est qu'il y a, quand on flâne un petit peu dans les ruelles et tout ça, c'est un peu labyrinthique. On trouve pas mal d'édifices de genre art nouveau, art déco. Moi, c'est un style architectural que j'aime beaucoup. Il y a des très très beaux immeubles aussi à voir au détour des rues. Donc, je conseille vraiment d'y aller.
Et qu'est-ce qui a plu particulièrement à Elio dans cette ville?
Alors, Elio, lui, il n'y est pas allé. En fait, pendant le voyage, pendant que lui, il allait à la plage avec son fils, avec son père, en fait, moi, je me suis fait une petite journée tranquille en ville. Voilà. Donc là, pour cette partie-là, j'étais en solo.
Et est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'il aurait particulièrement appréciées?
Alors, il y a un endroit qu'il a apprécié, alors qui n'est pas Palma même, mais qui n'est pas très loin. C'est l'aquarium de Palma. Alors, ce n'est pas dans le centre-ville de la ville, mais c'est à proximité. Donc, on dit que c'est l'aquarium de Palma. Et donc, c'est un immense aquarium qui est très, très bien fait. Il y a vraiment beaucoup d'aquariums différents, d'écosystèmes différents. C'est très, très bien mis. Enfin, les aquariums sont très, très bien mis en avant, avec une belle scénographie. Et puis après, ça fait aussi un petit peu, on va dire, parc de loisirs, parce que, il y a des espaces de jeux en intérieur, en extérieur. Il y a un cinéma 3D. Enfin, il y a plein d'autres activités autour de l'aquarium. Donc ça, c'est une sortie voilà, qui n'est pas forcément donnée. Hein. Les aquariums, moi, ça faisait longtemps que j'y étais pas allée et c'est assez cher. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup aimé. Et pour payer moins cher, la petite astuce, c'est que si on n'y va que l'après-midi, en fait, à partir de 14h, le prix est moins cher puisque bah, on n'y reste pas toute la journée. Donc si voilà, on n'a pas envie d'y rester toute la journée, on peut faire ça.
Ok. Bon, bah on passe au top 2 alors.
Alors, le top 2, on va rester sur le littoral sud de Majorque, donc pas forcément très très loin en voiture de Palma. On va aller du côté d'une calanque parce que, en fait, à Majorque, il y a énormément de calanques. C'est pas forcément des grandes plages de sable, c'est plus voilà, des criques, des calanques, même s'il y a aussi, il y a aussi des plages, hein. Et donc, on va aller à Calapi. Donc, Calapi, c'est un spot, c'est une calanque qui est très très connue. Mais mon top, il est juste à côté, en fait, quand on est à Calapi, donc pour visualiser, parce que dans un podcast, c'est jamais
C'est pas
évident,
simple.
on imagine une calanque un peu comme on pourrait avoir les calanques de Marseille, alors peut-être en moins escarpées, mais voilà, de l'eau turquoise, entourée d'un littoral rocheux, une roche plutôt claire. Et en fait, quand on prend un sentier qui longe justement ce littoral-là, en 10-15 minutes, on arrive à une autre calanque, qui est beaucoup plus étroite, mais où il n'y a personne, et même en plein été. Enfin, personne, quelques personnes quand même, je ne vais pas mentir, mais pas du tout bondée, alors que c'est vraiment à 10 minutes à pied d'une calanque qui, elle, est extrêmement fréquentée l'été. Et donc, c'est ce qui est très, très beau dans cette calandre. Donc, c'est entouré de falaises assez, assez hautes quand même. Et en fait, c'est un très, très bon spot pour le snorkeling. Donc, Elio, lui, il adore ça, mettre un masque et puis observer les petits poissons. Et donc, c'est parfait. En plus, l'eau, elle est très, très bonne à cette époque de l'année. Les courants, c'est plutôt tranquille. Hein, dans les Baléares, en général, c'est calme. Et donc, c'est une très, très bonne, un très, très bon lieu à recommander.
Ou alors je l'ai loupé, ou alors tu l'as pas dit, mais t'as dit que c'était à côté de ce truc très connu, mais celle-là, elle a un nom en
Ah
particulier?
oui, j'ai pas dit. Elle s'appelle la Cala Beltran, ou Beltrane, si on... avec l'accent, c'est mieux.
Oui, bah oui.
Voilà. Et c'est juste à côté. De manière générale, ça, c'est un conseil que je peux donner aux gens qui vont aller à Majorque, surtout s'ils y vont en plein été. Parce que des fois, bah, quand on a des enfants, par exemple, bah,
N'a pas trop
on
le
est un
choix.
peu obligé. c'est toujours, bah, même s'il y a une calanque un peu connue, c'est d'essayer de voir à côté, par exemple sur Google Maps ou sur une carte, s'il n'y a pas d'autres calanques à proximité. Et des fois, en marchant juste 15 minutes ou 30 minutes, eh ben, on a des endroits qui sont des fois quasiment déserts, même en plein été. Donc, des fois, ça vaut le coup de marcher un petit peu.
Tout à fait. Bon, bah, on peut passer au top 3. Quel est ton top 3 à Majorque?
Pour le top 3, on va aller plus au nord et plus particulièrement sur la côte ouest. Alors moi, j'ai beaucoup aimé toute la partie ouest de l'île parce que c'est une partie qui est beaucoup plus montagneuse. Donc il y a vraiment des très très beaux paysages et il y a notamment un endroit qui s'appelle Sacalobra qu'on atteint après avoir pris une route très sinueuse dans les montagnes et tout ça. Donc rien que la route, elle est juste folle. Bon, faut aimer conduire dans les lacets, mais si on aime ça, franchement, ça vaut vraiment la peine parce que les paysages sont fous. Et là, on arrive sur une plage. Donc, Sacalobra, c'est une plage qui est vraiment atypique parce qu'en fait, il y a un espèce de banc de sable qui est vraiment encerclé par deux falaises. Donc, c'est très bizarre quand on est sur cette plage-là parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a comme deux barrières rocheuses qui ferme la plage. D'ailleurs, on accède à la plage via un tunnel, un petit tunnel. Donc, c'est assez insolite. Et en fait, pourquoi c'est fait comme ça? Tout simplement parce qu'en fait, c'est une plage qui est l'embouchure, en fait, d'une rivière. Et ce qui est beau, au-delà du côté insolite de la plage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent juste à cette plage-là, c'est qu'en fait, bah, quand on regarde derrière soi, c'est-à-dire quand on ne regarde pas la mer, eh ben, on voit un canyon qui a été justement formé par cette rivière-là qui se poursuit. Donc là, il faut imaginer vraiment un canyon assez profond avec des falaises très imposantes de part et d'autre. Il y a du coup un petit peu d'eau, mais c'est vrai qu'à la saison où on était allé, il n'y avait pas forcément beaucoup d'eau, mais ça crée comme des méandres et ça crée des endroits où il y a des bancs de sable, des endroits où il y a de l'eau. Donc c'est très très joli. Et en fait, on peut marcher dans ce canyon-là parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de l'eau partout. Et c'est spectaculaire parce que les rochers, ils sont érodés avec le temps, donc ça crée par endroits des grottes, ça crée vraiment des formations rocheuses très très belles. Et pareil, en plein été, il suffit de juste marcher pas forcément longtemps, et là, il n'y a plus personne, alors que les paysages sont vraiment bah, magnifiques. Et on peut, voilà, on peut randonner assez longtemps, nous on n'est pas forcément allé très 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 loin dans le canyon parce qu'il faisait très chaud ce jour-là. Mais voilà, plus on s'enfonce, plus on est dans des paysages complètement sauvages, sans personne.
Waouh, ça donne envie en tout cas.
Ouais, c'est un spot. Alors, c'est un spot qui est assez connu, hein, Sacalobra, pour la plage. Donc, nous, c'est vrai que pour profiter juste de la plage en plein été, c'est pas forcément le meilleur spot parce qu'il y a énormément de monde. Donc, il vaut mieux y aller quand même assez tôt. Mais par contre, si vous y allez pas forcément tôt, randonnée dans le canyon, donc le canyon qui s'appelle Torrent Pareis. Donc c'est vraiment dans le prolongement, hein, c'est le même lieu, c'est juste le prolongement. Là, en général, bah, il n'y a pas trop de monde parce que bah, les gens, dès qu'il faut marcher,
C'est plus
ça fait un
compliqué.
écrémage un petit
Naturel.
peu naturel. Mais sinon, voilà, de toute manière, en plein été, sur les spots qui sont quand même assez connus, vaut mieux y aller très tôt le matin ou plus tard le soir. Et si jamais vous voulez vous baigner, ce que je vous conseille, c'est de reprendre un petit peu la voiture pendant 10 minutes, donc c'est pas très loin, et d'aller à la Calatuent. Donc là, c'est une plage plutôt de Galets, qui est ouverte, hein, donc il y a vraiment de la place, et qui est beaucoup moins fréquentée, alors qu'elle est très accessible, hein, on peut se garer pour le coup à proximité sans problème. Et le décor, quand on se baigne, il est incroyable, parce que en fait, il y a des montagnes en arrière-plan magnifiques. Donc franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup aussi d'aller se baigner là-bas.
Si seulement on pouvait y aller là maintenant.
Ouais, ça donne envie. Hein.
C'est ça.
En y repensant, c'est quand même chouette.
Bon. Eh bien, on passe à ton top 4.
Alors, on va rester plutôt dans l'ouest, mais on va aller encore un peu plus au nord. Et on va aller au Cap Formentor. Donc, le Cap Formentor, c'est une sorte de péninsule qui s'étire un petit peu dans la mer, aussi montagneuse. Moi, c'est vrai que j'aime bien le relief, donc forcément. Et donc, c'est une péninsule qu'on peut explorer de différentes manières, donc soit à vélo, à pied par endroit. Faire toute la péninsule à pied, c'est assez long et je suis pas sûre qu'il y ait des sentiers qui fassent vraiment tout le tour. En voiture, quand c'est pas la saison estivale, parce que sinon, en fait, la route est coupée et en fait, on peut y aller uniquement en bus, parce que c'est un lieu aussi qui est très, très connu à Majorque. Mais par contre, ce que je trouve bien, c'est que justement, l'été, ils ont mis en place des restrictions qui font que on a juste à prendre du coup un bus spécial qui peut nous arrêter à différents endroits de cette péninsule. Donc il y a des endroits, par exemple, il y a une plage paradisiaque, la plage de Formentor, pareil, eau turquoise, super, super cadre avec justement ces falaises assez impressionnantes. On peut s'arrêter aussi à d'autres endroits de la péninsule où on a là des départs de randonnée, mais assez faciles, donc avec les enfants, c'est pas mal. On marche quoi, 20 minutes à peu près, et là on arrive dans des calanques. Donc il y en a deux différentes principales. Et là c'est pareil, c'est assez étonnant parce qu'en plein été, autant on va voir du monde sur la plage, autant on peut voir du monde au niveau du phare, parce qu'après il y a un phare vraiment à la pointe du cap. Autant dans les calanques, on a vu très très peu de monde. Donc, et les paysages, pareil, sont incroyables. En plus, on peut un peu observer certaines calanques vues d'en haut avant d'y descendre. Et là, on voit bien que l'eau, elle est complètement limpide. Elle est entourée de plateformes rocheuses, d'une végétation quand même un petit peu méditerranéenne. Donc, c'est vraiment super beau. Et donc, je le disais, après, on peut aussi s'arrêter à l'extrémité du Cap de Formentor, où là, il y a un phare. Et pareil, c'est exceptionnel à cet endroit-là parce qu'on voit tout l'alignement en fait de montagnes qui forment en fait ce cap là, donc et puis la mer à perte de vue, donc c'est vraiment très très beau.
Ah là là.
Avec une petite baignade en prime.
C'est ça. Il fait quelle température l'été?
Alors l'été, nous on avait peur d'avoir hyper hyper chaud et en fait. Il faisait chaud, mais ça allait, donc on était autour de 30 degrés. Mais comme c'est une île et qu'on est souvent au bord de la mer, il y a de l'air, en fait. Donc on n'a pas souffert, c'était pas une chaleur vraiment accablante comme on a pu déjà vivre ailleurs. Après, peut-être qu'on a eu de la chance, peut-être qu'il n'y a pas eu de canicule aussi forte cet été-là que d'autres étés. Ça, je pourrais pas dire, mais c'était quand même bien. Et puis, comme on peut se baigner un peu partout, on peut vite aller se rafraîchir aussi.
Ok. Et on passe au top 5, le dernier.
Alors, le top 5, on va rester dans le nord, parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. C'est vrai que le nord de l'île, c'est un peu moins fréquenté que le sud. Et surtout, les villes et les villages qu'on trouve, ce sont moins des grosses stations balnéaires. Dans le sud, on peut quand même trouver des énormes stations balnéaires qui manquent un petit peu de charme, en tout cas selon mes goûts à moi. Et dans le nord, c'est moins le cas. Et alors, il y a un spot que j'ai adoré, c'est le village de Bethlehem. Donc, c'est dans le nord-est de l'île. Donc, c'est un village, alors il y a très peu d'hébergements disponibles, mais il y en a quand même. On a réussi à trouver en plein été un petit appartement, donc il y en a. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que c'est avant tout un village avec vraiment des maisons individuelles, blanches, avec un peu la carte postale, les bougainvilliers qui viennent
ouais.
Effleurer les portes, etc. Donc c'est assez joli. Du coup, c'est vrai qu'il y a une belle harmonie architecturale dans le village, qui est au bord de la mer, hein, bien sûr. Et ce qui est très chouette, c'est que là, le littoral, il est complètement sauvage, donc on peut aller randonner, suivre le littoral pendant quelques kilomètres, et on a des sortes de... La côte, elle est vraiment bien découpée, érodée, avec une couleur un petit peu ocre. Là, c'est un petit peu plus, ouais, un petit peu plus foncé que d'autres endroits de Majorque. Donc, ça crée vraiment des paysages spectaculaires. Ça crée des anses comme ça qui sont grignotées en fait par la mer. À certains endroits, on peut aller se baigner. Et il y a aussi une calanque qui est spectaculaire, qui s'appelle Cala na Clara. Qui est justement sur ce sentier, sur ce sentier-là, et qui est, en fait, on la voit déjà d'en haut, et en fait, on constate tout de suite que l'eau, elle est d'une limpidité que j'ai rarement vue, enfin, vraiment, c'est incroyable, et pourtant, on l'a vu un jour où il y avait un petit peu de vent, donc c'était pas son maximum de limpidité, mais c'est incroyable, l'eau, elle est vraiment... un turquoise vraiment hyper contrasté, enfin, il n'y a pas besoin de Photoshop, là. Et donc, on peut y descendre avec un sentier un peu, voilà, un peu escarpé et tout ça, mais qui reste quand même faisable. Et pareil, c'est un spot incroyable parce que du coup, on voit aussi bah, le reste des falaises qui s'étendent au loin et tout ça. Donc, c'est vraiment très, très beau. Et le village en soi, en plus... Et village en soi, bon, je disais, il est beau. Et en plus, il y a une bonne boulangerie.
Ah, hyper important.
Tenue par des Français. Bon, histoire de faire une petite exception aux produits locaux. Enfin, on s'est quand même fait avec des produits locaux, mais voilà, il y a du bon pain et des bons pains au chocolat. Donc, ils étaient juste situés en bas du seul immeuble du village où il y a justement des appartements, un petit peu de location et tout ça. Donc, voilà.
Donc, vous avez pu y aller régulièrement.
Voilà, tous les matins même.
On peut être chauvin ou chauvine deux minutes. Il y a quand même que en France qu'on sait faire le pain et les viennoiseries.
Bah, j'avoue que sur les viennoiseries, j'ai pas encore trouvé de concurrence sérieux, quoi. Sur le pain, ouais, sur le. Ouais, non, je reste chauvine sur
parfois,
ces aspects-là.
Oui. Oui, je suis d'accord que parfois tu peux trouver du bon pain. Mais sur les viennoiseries, non. Il faut que ce soit des Français installés ailleurs pour qu'on ait de bonnes viennoiseries. C'est pas grave, mais
avoir
c'est
du
une
bon
réalité.
Beurre, voilà, faut pas lésiner sur le beurre, c'est le secret.
C'est ça.
Oui, souvent ce que m'expliquait la boulangère, donc qui est d'origine française, c'est que souvent les viennoiseries qui sont faites en Espagne, en fait, elles sont pas faites à base de beurre, elles sont faites avec de la margarine.
Mais non.
Et ça change, bah, ça change le goût, quoi. Nous, on est habitués au beurre, donc on
ah
aime
bah...
ça.
Ouais, et puis en fait, ça peut pas fonctionner si c'est pas du beurre, c'est pas bon. Après, quand on est habitué.
Voilà, c'est selon nos goûts, quoi, mais
ouais,
c'est vrai.
Ah là là. C'est, non, mais je suis à fond sur le local, j'adore goûter les spécialités partout où je vais. Mais sur le pain, les viennoiseries, je peux être assez compliquée. J'aime trop ça, quoi, en fait.
Bah là, c'était trop tentant, quoi. La boulangerie
ah bah ouais.
Était vraiment en bas de, en bas de l'immeuble, donc...
C'est de leur faute, en fait.
Ah, ça a été pain au chocolat tous les jours.
Habituellement, je demande si y a un parc préféré pour les enfants, mais j'ai l'impression que là, c'était plutôt snorkeling et rando, vos activités phares, mais est-ce qu'il y a quelque chose... ou un endroit ou un parc, parce que peut-être que je parle, mais en fait, il y en a un.
Alors, c'est vrai qu'à Majorque, on n'a pas vu de parc particulièrement. Après, c'est vrai qu'on ne les a pas cherchés parce que bah, Elio s'amusait tellement, que ce soit à la plage ou bah, dans les calanques à se baigner, qu'il n'a pas ressenti le besoin d'aller au parc. Donc, j'ai pas de spot parc. Par contre, il y a un endroit qui peut être très sympa pour aller pique-niquer, passer la journée, etc. Donc, c'est un coin nature, hein. Ça s'appelle l'embassement de Cubert et l'embassement de Gorge Bleau. Alors, je le dis avec un bon accent français, là. Affreux, je m'écoute et je me dis, c'est pas possible, mais bon.
Je parle pas espagnol, donc
voilà.
Ça m'écorche pas les oreilles.
c'est pas très loin de Sacalobra, donc c'est plutôt dans les montagnes. Et en fait, c'est des endroits où il y a des réservoirs d'eau, en fait, artificiels, comme des lacs, des retenues d'eau en fait, mais qui sont très beaux, pareil avec des couleurs émeraudes, la montagne tout autour. Et il y a un endroit où justement il y a des aires de pique-nique, donc on peut venir pique-niquer. On peut pas forcément s'y baigner parce que justement c'est des retenues d'eau qui servent ensuite à la population. Mais par contre c'est très joli parce que tout autour il y a une végétation qui est un peu spécifique. On peut aussi randonner, mais sur des sentiers qui sont assez faciles et pas très longs. Donc ça peut être un bon endroit pour se poser, se relaxer. Si on a pris des petits jeux, faire des petits jeux et être un petit peu plus à l'ombre et au frais, parce que c'est dans les montagnes, donc il fait un petit peu moins chaud aussi.
Habituellement aussi, je pose la question de « on fait quoi quand il pleut ?» Mais est-ce que vous avez eu de la pluie sur votre séjour ?
Non, alors je crois pas qu'on ait eu de la pluie. Il y a pu avoir des jours où il faisait un peu plus nuageux. Par exemple, quand on est au Cap de Formentor, c'était pas non plus le grand soleil. Mais s'il pleut, il y a quand même des activités qui sont possibles. Il y a l'aquarium dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Même s'il y a des jeux en extérieur, l'essentiel se passe quand même de manière couverte, on va dire. Et sinon, sur la côte est, il y a deux grottes qui existent. Donc, il y a les grottes du Drac et les grottes d'Els Hams. Et en fait, c'est des grottes qui sont assez sympas. Enfin, nous, on est juste allé sur les grottes d'Els Hams. Oh, j'ai du mal avec la prononciation aujourd'hui, c'est catastrophique.
C'est pas facile.
En fait, c'est des grottes assez sympas parce qu'elles ont été aussi aménagées pour la visite. Donc, dans cette grotte-là, bien sûr, on voit les classiques stalactites, stalagmites, etc. Il y a des films aussi qui sont diffusés pour montrer un peu comment se sont formées les grottes. Donc, il y a cet aspect pédagogique. Ça parle aussi un peu de la culture mallorquine, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Et en fait, ce qui est... particulier dans cette grotte-là notamment, c'est qu'on peut voir des formes de concrétions qu'on voit rarement ailleurs. C'est des concrétions qui sont en forme de d'hameçon.
Oh.
D'où le nom, en fait, parce que c'est... Hams, c'est pour hameçon, en fait. Voilà, et donc c'est vrai que c'est assez rigolo. Je crois que les scientifiques savent pas exactement comment c'est possible, parce que ça défie un petit peu les lois de la gravité. Mais donc, on a à certains endroits voilà, des sortes de stalagmites, mais qui reviennent et qui se recourbent comme un hameçon, au lieu de finir tout droite, quoi. Donc, c'est assez sympa. Et à la fin, il y a un petit spectacle aussi, un peu son et lumière. Donc voilà, ça peut faire une sortie. Alors après, en extérieur, juste à côté de cette grotte-là, bon, même si nous, c'est pas le genre d'attraction qu'on aime, on doit bien avouer que c'est quand même bien fait et que notre fils a adoré. Il y a un parc à côté de dinosaures géants. Donc ça, c'est des dinosaures quasiment à l'échelle. Si, à l'échelle, en fait. Dont certains sont mécanisés, donc bougent, etc. Et donc, c'était assez, assez bien fait parce qu'ils sont mis voilà, dans la végétation, etc. Il y a un sentier où il y a des panneaux qui expliquent quelle espèce de dinosaure c'est, etc. Il y a un petit spectacle à un moment donné avec un animateur qui est quand même assez bien fait. Donc ça peut être une visite qui se combine à la grotte ou alors on peut faire soit l'un, soit l'autre. Avec des enfants, ça fait son petit effet, on va pas se mentir.
Si on a des enfants qui sont passionnés par les dinosaures...
Ouais, c'est quand même bien fait. Voilà. Des fois, je suis un peu réservée sur ce genre d'endroit. Je trouve que c'est pas toujours bien fait, mais là même nous, on a passé un bon moment en tant qu'adulte.
Donc, c'est que c'est vraiment sympa.
Ouais.
Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie d'ajouter qui sortirait du top 5 ou de ce qu'on vient de se dire ?
Alors c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, j'ai plus parlé des spots nature, mais il faut savoir qu'à Majorque, il y a aussi énormément de petits villages hyper mignons, donc ça vaut le coup de s'y arrêter, ne serait-ce que pour se balader, voir l'architecture un petit peu typique, notamment dans toute la partie montagneuse, là il y a énormément de jolis villages, donc ça c'est à faire aussi, même si on s'arrête pas forcément très longtemps, on s'arrête juste pour prendre un café ou etc., c'est à faire aussi, surtout si on aime le patrimoine et puis les petits villages de charme. Il y a aussi ça aussi à découvrir.
Ok, ah bah c'est cool parce que moi j'aime bien les petits villages aussi.
Ouais, mais il y en a quand même pas mal. C'est assez joli, ouais. Et puis il y a une belle ambiance, voilà, l'ambiance un peu méditerranéenne, chaleureuse et tout ça. C'est vrai que bah, c'est sympa.
Quel a été le coup de cœur d'Elio? Qu'est-ce qu'il a préféré dans ce séjour?
Alors, je sais pas s'il a préféré un lieu plutôt qu'un autre. De toute façon, dès qu'il y a de l'eau
Ouais, c'est ce que
un
j'allais
peu
dire. Il a
chaude
sorti,
et
c'est
tout
ça,
ça.
c'est nager, quoi.
Ouais, c'est.
Être dans l'eau.
Si je pense qu'il a quand même bien aimé une plage qui est au nord. C'est vraiment la plage principale. C'est une plage qui s'étend sur plusieurs kilomètres tout au nord de l'île, autour d'Alcudia et toutes ces villes-là. Donc en fait, c'est une énorme plage de sable. Donc ça, c'est vrai qu'il a une préférence sur les plages de sable, ce qui n'est pas souvent le cas à Majorque. Et qui est quand même assez naturel. Alors il y a des endroits où il y a quelques constructions, quelques bâtiments, mais qui sont pas des gros bâtiments un peu touristiques moches. Ça reste
Soyons
quand même,
clairs.
voilà, ça reste assez joli, même si c'est un peu urbain. Et il y a toute une partie de la plage où il y a aucune construction parce qu'en fait c'est accolé à une réserve naturelle, donc à des dunes en fait qui sont végétalisées où il y a comme une mini-forêts, des arbustes, etc. Comme c'est une zone protégée, ben, il n'y a pas de construction. Et en fait, du coup, si on s'installe le long de la plage qui est accolée à cette réserve-là, et ben là, pour le coup, voilà, il n'y a pas de construction, c'est vraiment sauvage. Et puis, si on veut, après, il y a un sentier qui permet d'explorer un petit peu cet espace naturel. Et c'est vrai qu'il a bien aimé cet endroit-là parce que c'est une plage, bon, déjà, il y a du sable, c'est une grande plage. Et puis, on pouvait rentrer assez progressivement dans l'eau. Donc ça, il aime bien aussi parce que du coup, ça permet de jouer plus facilement. Puis le jour où on était, il y avait quand même un petit peu de vagues. Donc c'est quand même marrant de jouer dans les vagues. Donc voilà, il a bien aimé cette plage-là.
Bon, bah, on passe au guide pratique. Comment on y va à Majorque?
Alors, on y va, bon, classiquement, j'ai envie de dire en avion. C'est assez simple. Hein. C'est une destination qui est quand même bien touristique. Donc il y a énormément de propositions. Et par contre, on le sait moins, mais on peut aussi y aller en ferry à partir de plusieurs endroits. Donc, soit à partir de Toulon en France, on peut rejoindre le nord de l'île. Donc, bah, je parlais d'Alcudia justement. Donc, c'est la ville qu'on peut rejoindre en ferry. Donc, l'avantage, si par exemple, bah, on est plutôt au sud de la France, etc., ça peut vraiment être intéressant parce que du coup, on peut aussi embarquer sa voiture sur le ferry. Et sinon, si par exemple on est en voyage en Espagne vers Barcelone, etc., il y a aussi des ferries qui emmènent jusqu'à Majorque. Donc là, plus au niveau de Palma de Majorque, mais aussi ça peut être au niveau du nord de l'île. L'île en elle-même est pas très très grande, donc on arrive au nord ou au sud, c'est pas un problème après pour se déplacer. Donc voilà, il y a ces deux options-là. Et si jamais on est en voyage dans d'autres îles des Baléares, je pense à Minorque, Ibiza, Formentera, il y a aussi des liaisons en bateau qui relient en fait les différentes îles entre elles. Donc c'est aussi possible de conjuguer lors d'un voyage la visite de plusieurs îles. Ça peut être sympa aussi.
Combien ça coûte? Est-ce que on trouve des billets d'avion pas hors de prix? Les ferries, ça doit être un peu plus abordable.
Alors, pour les ferries, moi, j'ai vu des billets à partir de 30 euros, mais ça dépend si on a un véhicule, si, etc. Mais voilà, il peut y avoir, puis de la saison surtout, hein, parce que c'est ça qui va beaucoup faire changer les prix. En avion, on peut trouver des billets abordables. Là aussi, ça va dépendre de si on s'y prend à l'avance ou pas. Je sais plus combien on avait payé, mais nous, on était en pleine saison, puis on s'était un peu décidé à la dernière minute, donc... Je sais pas
Oui,
si c'est
donc tu
très
prends ce qu'il y a.
représentatif, mais oui, il y a, je pense qu'autour d'une centaine d'euros. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué de donner des prix pour l'avion actuellement parce que
Ça change tout le temps. On
ça
est
change tout
d'accord.
le temps. Donc, mais oui, c'est une destination qui reste d'un point de vue du transport relativement économique.
Et sur place, la vie est chère ou pas?
Sur place, non, la vie est pas extrêmement chère. Les courses, j'ai envie de dire, c'est assez classique. Les prix, enfin, en tout cas, il n'y a rien qui m'ait choqué. C'est assez classique. Les restaurants, on peut manger pour pas cher aussi. Tout dépend le type de restaurant où on va, non, c'est une destination qui est pas hors de prix, non. Mais qui est pas non plus. Je pense que c'est à peu près les mêmes prix qu'en France. Peut-être pour les restos, il y a moyen de s'en sortir un peu moins cher, je pense. Mais et puis sur l'hébergement, nous, on n'avait vraiment pas payé cher. Pareil, là, ça dépend. Il y a une gamme d'hébergements qui est vraiment divers et variée.
Il y en a pour tous les goûts.
Ouais, il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Voilà, nous, on avait loué plusieurs appartements. On a même loué une maison entière en plein milieu de la campagne. Et là, pour le coup, c'était pas cher du tout parce que c'était bah, en dehors des sentiers battus, j'ai envie de dire, en dehors des grandes zones touristiques. Et on avait une maison en plein milieu de la campagne, rien que pour nous. Enfin, c'était top, quoi. Donc, il y a vraiment moyen de trouver des choses qui sont vraiment pas chères du tout, quoi.
Sur place, le plus simple, j'imagine, c'est de louer une voiture.
Alors, ça reste toujours plus simple d'avoir une voiture, surtout si on veut visiter plusieurs spots dans la même journée, en mode un peu itinérance. C'est sûr que c'est plus simple. Après, Majorque, ça peut très bien se faire aussi sans voiture.
Avec le bus.
Ouais, il y a énormément d'endroits qui sont desservis, même des lieux naturels, etc. Donc, c'est aussi possible. Après, c'est voilà, à chaque fois pour le bus, ça demande de vérifier les horaires, etc. Donc, si on veut, par exemple, visiter un spot par jour, prendre son temps, etc. C'est tout à fait possible, notamment bah, tout le littoral sud, là, il est relié, il est en bus. Donc même si par exemple on a une voiture de location, ça peut valoir le coup, par exemple, d'aller à Palma de Mallorca sans voiture en prenant un bus, parce que après, pour se garer, ça risque d'être un peu compliqué. Et puis oui, il y a beaucoup, beaucoup de lieux qui sont desservis en bus. Donc à voir.
Tu viens de le dire, pris des hébergements à différents endroits. Donc plutôt que de te demander où est-ce qu'il faut séjourner, puisque bah ça dépend où on va en fait, quel a été votre hébergement préféré? Est-ce que c'est cette maison justement, ou est-ce que c'est un autre?
Alors nous, on a eu trois hébergements différents. On en a eu un dans le sud pour vraiment pouvoir rayonner dans le sud. Nous, souvent, ce qu'on aime, c'est voilà, prendre un hébergement pour plusieurs jours et puis rayonner autour plutôt que de changer d'hébergement tous les jours. Là, c'était dans une station balnéaire, donc même si c'était très pratique, etc., qu'on pouvait aller à la plage à pied et tout, bah, ça manquait forcément un peu de charme par rapport à nos goûts. Mais Elio a adoré parce que bah, justement, t'as la plage à côté. Après, on est allé plus dans les terres, donc dans cette maison. Donc, c'était une maison typiquement mallorquine, petite maison. On avait une petite piscine gonflable. Donc, en fait, Elio, quand il est arrivé, il a dit, mais c'est le paradis ici, parce que c'est vrai qu'on avait une maison entourée complètement de nature, avec vue sur les montagnes au loin. Et puis, bah, il y avait quand même un endroit pour se baigner. Donc, je pense que cet hébergement-là, on l'a beaucoup aimé aussi. C'était hyper agréable le matin de prendre le petit déjeuner sur la terrasse et puis d'être dans la nature. Et puis après, le dernier hébergement, c'était un appartement donc au village de Bethléem. Et là, ouais, je pense que ah, c'est difficile de départager les deux derniers, mais on avait une vue incroyable sur le cap de Formentor parce qu'on était un peu en hauteur, donc on avait vraiment vue sur mer, vue sur toutes les falaises aux alentours. Et puis le village en lui-même était beau, et on pouvait aller, pareil, se balader et accéder à la mer bah, à pied, en fait, sans prendre la voiture. Donc je dirais que c'était quand même là, pas forcément pour l'hébergement en lui-même, même si l'appart était très bien fonctionnel et tout ça, mais plus pour le lieu, quoi.
Est-ce qu'il y a eu un restaurant, peut-être typique, que vous avez particulièrement apprécié?
Alors nous, à Majorque, on a très peu mangé au restaurant, voire, j'ai envie de dire, peut-être pas du tout, je sais plus, mais on a très très peu mangé au restaurant parce qu'on avait toujours des hébergements avec cuisine. Et c'est vrai que nous, le soir, on aime bien être... Elio est pas fan de rester longtemps au resto.
Bah oui, je comprends.
Voilà, et puis le midi, c'était souvent plus pique-nique si on allait se balader et tout ça. Par contre, il y a un endroit où on est allé à Valldemossa, donc c'est un des beaux villages à visiter à Majorque, là dans les montagnes. Et on est allé boire un café au Barba Florida, qui fait aussi de la restauration. Et alors pourquoi j'en parle? C'est parce qu'ils font du café de spécialité, donc c'est-à-dire du très bon café. Moi, je suis une fan de café, donc c'est très important pour moi. Surtout que le café, des fois, en Espagne, voilà, il est servi avec du lait et tout ça, donc c'est pas toujours du très bon café, selon moi, hein. Selon mes exigences, qui sont quand même assez hautes en la matière. Et donc, ce café fait du café de spécialité. On peut y boire notamment aussi du café qui est extrait par méthode douce, etc. Et puis, ils font aussi... Enfin, c'est un endroit où on sent qu'il y a des valeurs, voilà, il y a des produits locaux de qualité, etc. Et puis, en plus... Ils ont une terrasse sur la place du village qui est super sympa. Donc je recommande cette adresse-là.
Eh bien, c'est bien noté. Votre prochaine destination en famille?
Bonne question. Alors, comme je disais, nous, on ne programme pas hyper longtemps à l'avance.
Vous savez pas, en fait.
Donc, je n'en ai aucune espèce d'idée. Parce que des fois, on se dit, ah, on aimerait bien aller là. Et puis, au
C'est pas
final...
du tout là.
Non, des fois, enfin, c'est déjà arrivé qu'on programme un voyage la veille pour le lendemain. Enfin, on l'a fait il n'y a pas très longtemps. On s'est décidé le vendredi pour le samedi.
Ah oui, pas mal.
Ouais, bon, là, c'était notre record. Hein. On a vraiment fait ça à la dernière minute, mais non, franchement, j'en ai aucune idée. Je pense qu'on va surtout là, prochainement, explorer notre belle région. Parce que voilà, notre fils il aime bien aussi les activités un peu à la neige, la luge, rando-raquette et tout ça. Donc on va plutôt attendre les bonnes fenêtres météo pour en profiter localement.
Et bien justement, si nos auditeurs ont envie de suivre vos prochains voyages, vos prochaines escapades, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
Alors soit sur les réseaux sociaux, donc Globe Blogueur, que ce soit sur Instagram, Facebook et tout ça, tout ça. Et puis sur notre blog, donc c'est lesglobeblogueurs.com.
Je mettrai ça dans les notes de
Où là,
l'épisode.
il y a la totale. Là on explique en long, en large, en travers les voyages avec toutes les infos pratiques, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, etc.
Super. Eh bien écoute, merci beaucoup Laura pour ce top 5 des activités à faire en famille ou des spots à découvrir à Majorque.
Et il y en a plein d'autres. C'est ça qui est chouette. Voilà, c'était pas facile
De choisir.
de choisir, mais bon, voilà, à un moment, il faut choisir.
Il faut essayer d'aller à l'essentiel, ce qu'on s'est dit au début.
Exactement.
Eh bien merci encore et à
Bah,
bientôt.
merci à toi, à bientôt.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, bah dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famille et voyage underscore blog. Et n'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances. Comme d'habitude, toutes les notes de l'épisode sont sur le blog famille-et-voyage.com. Si vous cherchez un autre épisode à écouter, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles gratuitement sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.